Combien de jeunes artistes, combien de voies ouvertes et de paris sur l'art prises à la FIAC?
La Foire Internationale de l'Art Contemporain à
Paris. La Foire Internationale de l'Art Contemporain.
La FIAC.
La Foire Internationale d'Art Contemporain.
La FIAC.
Le rendez-vous en direct de la FIAC.
Autrement dit, la Foire Internationale d'Art Contemporain.
Au Grand Palais. FIAC.
Eh bien, on le saura ce soir dans le rendez-vous en direct de la FIAC au Grand Palais à Paris, en public sur France Culture. Il sera question de fondations, de collectifs, de commissaires, de prix et même de Nostradamus. Une émission spéciale art contemporain en trois temps par les professionnels de la profession. Plateau fondation d'abord avec Paula Eisenberg à mes côtés, directrice de la fondation Antoine de Galbert Maison Rouge.
Avec Vincent Honoré, directeur de la David Roberts Art Foundation à Londres.
François Quintin, directeur délégué de la fondation d'entreprise Galerie Lafayette à Paris.
Michel-Édouard Leclerc, président du fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture.
À Landerneau, 19h30, le plateau sera exposition avec Laurent Grasso pour Soleil Double, son solo show à la Galerie Emmanuel Perrotin à Paris.
Et 19h40, plateau commissaire avec François Piron et Thomas Boutou, deux des membres du collectif Castillo Corales, qui signent l'exposition « L'époque, les humeurs, les valeurs, l'attention » pour le prix Ricard.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès, spécial FIAC. Il va falloir laisser le micro à Zoé. Merci Manou Farine, on commence.
Shame on Gal! Shame on Gal! Shame on Gal!
And allow the Klinghoffer family a full measure of respect. The murder of other innocent men, women, and children selected for death simply because they were Jewish.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Alors c'est votre son du jour, il est en anglais et il ne concerne pas l'art contemporain, tout
oui,
faux.
Oui, ce sera la seule information qui ne concerne pas l'art contemporain, c'est une information importante. Ce que vous entendiez, ce sont des manifestants qui criaient « Shame on Gelb », honte à Peter Gelb. Ça s'est passé à New York. Ce lundi, plusieurs centaines de personnes, dont l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, ont protesté devant la célèbre maison d'opéra, le Met, contre la programmation de The Death of Klinghoffer, un opéra de John Adams qui, déjà lors de sa création en 91, avait fait polémique. Il s'inspire de la prise d'otage en 85 d'un bateau de croisière par des membres du Front de Libération de la Palestine. Ils exigeaient la libération de prisonniers palestiniens et avaient fini par exécuter sommairement un passager juif de 65 ans. Le livret est taxé d'antisémitisme et accusé de valoriser les terroristes. Alors devant le tollé, Peter Gelb, directeur du Met, refuse de déprogrammer l'opéra, mais il a annoncé qu'au vu du climat tendu, notamment en Europe sur cette question, l'opéra ne serait pas retransmis au cinéma dans le monde entier comme le sont en général toutes les productions du Met.
On passe tout de suite au dossier du jour, spécial FIAC, donc Foire Internationale d'Art Contemporain, puisque vous avez rencontré la directrice artistique de la FIAC, Jennifer Flay.
Jennifer Flay, qui est directrice artistique depuis 2003. Et les choses ont beaucoup évolué ici depuis lors. Je lui ai demandé ce que représentait finalement la FIAC en termes de force de frappe aujourd'hui.
La FIAC aujourd'hui est reconnue comme étant vraiment l'une des manifestations les plus importantes du monde. À l'étranger, on attend des visiteurs vraiment venus du monde entier, en très grand nombre, qui sont appâtés en venant ici par la qualité, la très grande qualité des œuvres qui sont présentées, la qualité évidemment aussi des galeries qui les présentent. Et c'est ça qu'il fallait aussi changer radicalement. Le fait que nous ayons travaillé pour que la ville de Paris, la France, revendique fortement ses atouts. Et ils sont nombreux, hein, culturels. De fait, il y a de nombreux événements qui ont lieu en même temps. L'inauguration de la Fondation Vuitton, la réouverture du musée Picasso et l'exposition de Paul McCartney à la Monnaie de Paris qui, elle aussi, réouvre. Donc, une densité et une richesse dans l'offre culturelle qui est inouïe. Et je pense vraiment à la portée de peu de villes. C'est ça que les Français doivent aussi comprendre et revendiquer.
Pourtant, les artistes français sont parmi les moins bien représentés à l'étranger. Comment vous pouvez expliquer ça?
Écoutez, ça aussi, c'est en train de changer. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un trou assez durable dans la prise de position aussi française dans la revendication de sa culture. Après-guerre, je pense qu'il y a eu un trouble d'identité française, une fragilisation de l'identité française. Il est vrai que les artistes français ont été moins présents à l'étranger, moins reconnus à l'étranger. Il y a eu parallèlement aussi l'émergence de la place très très puissante de New York, et c'est très bien, mais je pense que plusieurs places peuvent coexister. Il est possible aujourd'hui pour Cyprien Gaillard, par exemple, jeune artiste français qui est connu internationalement, ou Étienne Chambaud, ou Niel Belloufa, d'exposer internationalement. Les portes leur sont plus ouvertes que pour les générations précédentes.
Une réaction peut-être de la part de nos invités. Est-ce que vous avez l'impression que la place des artistes français à l'étranger ont changé, François Quintin?
Oui, la place a changé, en effet. Et je pense que les artistes d'aujourd'hui ont peut-être gagné beaucoup en indépendance. Je pense à Isabelle Cornaro, par exemple, aussi est très présente, et beaucoup d'autres. Mais je pense aussi qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour peut-être permettre aux artistes de partir, parce que la clé, c'est ça, c'est qu'ils puissent vivre ailleurs aussi. Je pense que ça, c'est un point important.
Paul Eisenberg.
Des galeries françaises ont ouvert à New York. Des artistes français sont montrés dans ces galeries françaises. Je pense que les choses changent.
Vincent Honoré.
On a eu un Lion d'Argent gagné par Camille Henrault l'année dernière.
Très cocorico, oui.
On a une exposition de Niel Belloufa.
Qui travaille beaucoup à New York, d'ailleurs.
À Londres. Mm-hmm. Les artistes français s'exportent et sont surtout montrés par des organisations internationales.
Et c'est ça qui est important?
C'est ça qui est très important.
Jean-Édouard Leclerc, un avis là-dessus?
J'ai pas beaucoup d'avis sur le marché de l'art, mais je trouve que ce qui m'impressionne ici, c'est le public. On est passé d'un monde qui était à part et qui aujourd'hui, enfin, c'est quand même accessible, pas en prix, mais la vision de la richesse de la production artistique aujourd'hui, c'est formidable, quoi, de voir tout ce grand public venir à la FIAC.
Enfin, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les professionnels. Et ça sera à partir de demain.
C'est
le grand
extraordinaire.
Public.
La notoriété, la propulsion pour les artistes, le rapport au public qui se redésacralise. Je trouve ça assez impressionnant.
On repart du côté de Jennifer Flay.
Tout à fait. Alors là, justement, il y a une spécificité cette année dans cette édition de la FIAC, puisque la FIAC a lancé Off officiel à la Cité de la Mode et du Design. Elle organise en fait elle-même son propre Off, elle le chapeaute, car si la FIAC en fait ne cesse de gagner en puissance, vous le dites, les galeries qui en sont exclues souffrent énormément et s'en plaignent d'ailleurs. J'ai demandé à Jennifer Flay si ce FIAC officiel n'était pas finalement une manière de répondre aux critiques de ces galeries.
Ça fait partie évidemment des raisons pour lesquelles nous avons lancé officiel, qui n'est pas un satellite, c'est le nouvel événement de la FIAC. Ça fait plus de 2 ans que je suis conscient du fait qu'avec la nouvelle puissance de la FIAC et nos capacités d'accueil quand même limitées en termes de mètres carrés, qu'il faut urgemment créer un nouveau plateforme d'exposition qui est davantage ouvert à la jeune création, mais pas que. L'art brut, qui malheureusement n'a pas été présent à la FIAC depuis de très longues années. Je suis aussi très intéressée par des galeries qui proposent des artistes qui peuvent, à première vue, semblait un peu sur les côtés d'une sorte de mainstream officiel qui finalement n'est pas tout l'histoire. Et oui, on a envie d'une ouverture. C'est un événement important qui élargit et qui embellit l'offre de la FIAC.
Cette édition de la FIAC est aussi marquée par une programmation hors les murs qui a beaucoup fait parler d'elle avant même le début de la manifestation, Zoé.
Évidemment, je parle de la sculpture gonflable de l'artiste américain Paul McCarthy, intitulée Tri, mais qui évoquait aussi un plug anal, l'artiste le disait lui-même. Paul McCarthy, 69 ans, a été agressé lors de l'installation de cette pièce et l'œuvre a été vandalisée quelques jours plus tard, dégonflée en pleine nuit. La FIAC a renoncé à le regonfler. J'ai demandé à Jennifer Flay si c'était sa décision.
Pas du tout. C'est une volonté de l'artiste. J'aurais, moi, personnellement souhaité que nous puissions réinstaller l'œuvre, mais l'artiste a dit quelque chose de fondamentalement important en installant cette œuvre avec nous et avec la Monnaie de Paris sur la place de Vendôme et avec toutes les autorisations, vous imaginez bien, nécessaires pour un projet de cette envergure, a voulu créer la base d'une discussion autour de la multiplicité de significations possibles d'un objet. Il a rencontré dans ce désir de discussion une réaction immédiate, absolument intransigeante et sans ouverture aucune, de violence, de colère. Et il a dit, et je le respecte, engager davantage un échange qui n'en est pas un ne l'intéresse pas. Je suis heureuse que le président de la République, lors de son discours d'inauguration de la Fondation Vuitton, ait tenu à marquer son soutien à Paul McCarthy, puisque, in fine, ces personnes qui appartiennent à une stricte minorité et qui ont cru remporter la victoire ne l'ont pas eue. Parce que les Français et la France est ouvert et fort.
Peut-être un regard anglais de votre part, Vincent Honoré, sur cette affaire Paul McCarthy. Est-ce que la même chose aurait pu se passer en Angleterre? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de manifestation anti-art contemporain.
La destruction d'une œuvre d'art contemporain, je ne pense pas que ça se pourrait se passer en Angleterre. Cela dit, une exposition a été censurée au Barbican parce que des gens ont signé une pétition contre une exposition contre le racisme. Donc la censure existe partout. Cependant, la destruction d'une œuvre, effectivement, je ne pense pas que ça se passerait en Angleterre.
François Quintin, comment vous regardez cette affaire Plug Anal? C'était
Place Vendôme.
Place Vendôme.
Place Vendôme. C'est évidemment désolant et terrible. Ce que je trouve terrible surtout, c'est que l'artiste ait été agressé physiquement. Je pense que c'est quand même un signe important et fort et terrible. Et en même temps, je trouve finalement paradoxalement rassurant de penser que l'art continue finalement à être provoquant et à susciter des réactions fortes.
On continue et on passe tout de suite au bref.
Et on ouvre avec le Conseil de Paris qui doit se prononcer la semaine prochaine sur le déclassement du terrain où doit s'élever la tour Triangle conçue par Jacques Herzog et Pierre de Meuron dans le 15e. Et la maire, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé aujourd'hui qu'elle a un problème de majorité sur ce dossier qui peut ne pas susciter l'adhésion de tous, y compris dans la gauche. Elle a exprimé son souhait de le voir passer, mais a indiqué que si ce n'était pas le cas, elle ne le prendrait pas comme une affaire personnelle.
Un fondeur new-yorkais condamné pour fraude.
Brian Ranmarine, propriétaire d'une fonderie dans le Queens et ancien collaborateur de Jasper Johns, a été condamné à plus de 30 mois de prison pour fraude. Il a réalisé une copie non autorisée, au moins une, d'une œuvre de l'artiste et il a ensuite tenté de vendre cette œuvre à un collectionneur pour 10 millions de dollars.
Et la dernière ?
La dernière, c'est l'histoire d'une rumeur infondée mais qui continue de courir, celle d'un artiste mystérieux qui continue de créer sa légende finalement. Vous connaissez certainement Banksy, artiste de street art insaisissable, peintre, réalisateur, militant politique qui travaille au graphe et au pochoir dans les rues du monde entier depuis de nombreuses années, mais personne ne connaît son visage, personne ne connaît non plus son véritable nom. Il est devenu une sorte d'icône iconoclaste. La police, mais aussi ses fans et les collectionneurs d'art tentent depuis des années de le pister pour savoir qui il est en réalité. Et cette semaine...
C'est une vieille dame,
c'est ça. Mais alors non, justement, on ne sait toujours pas. Mais il y a eu un article dans un journal, le National Report, un site anglais, qui annonce qu'il a été pris par la police de Londres, qui a mené une perquisition dans son atelier, a trouvé des milliers de dollars en fausse monnaie, des plans pour de futurs actes de vandalisme, qu'il a été placé en garde à vue pour vandalisme, complot, raquette et contrefaçon. Le journal indique que son agent a confirmé l'information à la BBC et surtout qu'il s'appelle Paul Horner, qu'il a 35 ans et qu'il est originaire de Liverpool. Le site publie même une photo. Alors là, branle-bas de combat chez tous les fans du monde entier sur Twitter. Artistes, cinéastes, fans crient au scandale, demandent à ce qu'on libère le génie. L'info est reprise absolument partout, y compris en France. Sauf que le National Report, c'est un site de canular.
Une sorte de Gorafi.
Comme le Gorafi, exactement le Gorafi. L'agent de l'artiste a fini par démentir deux jours plus tard tout cela, mais l'info reste largement visible sur le web. Donc faites attention, ne la relayez pas. Les fans multiplient depuis en tout cas les messages de soulagement et Banksy, lui, court toujours.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture.
Avec plaisir.
Tout de suite, on passe au sud de l'émission. On commence.
Du Grand Palais, le rendez-vous, la FIAC extérieure.
Plateau Fondation avec Manou Farine qui nous a rejoint. Avec vous, Paula Eisenberg, vous êtes la directrice de la Maison Rouge Antoine de Galbert à Paris. Allez-y Manou. Non, vous n'avez pas. Bon, Vincent Honoré, directeur artistique et commissaire de la David Roberts Art Foundation à Londres, elle-même actuellement à l'honneur à la Fondation Hippocrène à Paris.
À vos côtés, ouais, François Quintin.
Les rôles sont bien établis. Si je change quelque chose, rien ne se passe.
François Quintin, directeur délégué de la Fondation d'entreprise Galerie Lafayette, qui ouvrira ses portes en 2016, hein, si tout va bien, à Paris. Et Michel-Édouard Leclerc, vous avez un statut un peu particulier autour de cette table, puisque vous présidez le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, abrité dans le couvent des Capucins à Landerneau. Pourquoi avoir choisi cette structure-là plutôt que celle d'une fondation? Qu'est-ce que ça dit de votre projet?
D'abord, c'est un fonds de dotation. L'intérêt du fonds de dotation, c'est que les mécènes peuvent être coproducteurs de manière très libre, sans avoir à en référer à une institution. Alors, on a volontairement exclu de pouvoir toucher des subventions, Donc ce sont uniquement, c'est presque 600 chefs d'entreprise et cadres qui sont passés par le mouvement Leclerc, qui cotisent chaque année sur un budget. C'est une fondation entièrement dédiée à la médiation. Ce n'est pas une fondation d'entreprise, ce n'est pas une fondation patrimoniale. Et notre objectif est pédagogique et de médiation. C'est de faire connaître dans nos territoires, à l'ouest français,
à Landerneau,
des auteurs qui, certes, au départ, sont très connus de nom, mais dont on n'a pas vu les œuvres dans le Grand Ouest français, parce que même Miro, même Dubuffet n'ont jamais eu de grandes expositions au-delà d'une ligne entre Nantes et Cherbourg à l'ouest. Et on n'avait pas de lieu de ce type. Donc, familialement, on avait un ancien couvent qui était assez délabré, que mes parents ont retapé. Et on est parti pour un cycle d'expositions, deux par an, avec une jauge de visiteurs qui est de 35 000 à 130 000 visiteurs dans une ville de 18 000 habitants.
Alors à vos côtés, Paul Eisenberg, François Quintin et Vincent Nouret, vous êtes tous entrés en fonction au moment même de la création des fondations, une fonction particulière parce qu'en fait, il s'agit de diriger un lieu fondé par une personne privée, donc un regard subjectif, et dans un certain cas, qui s'appuie même sur une collection particulière. Avec quelle subjectivité, avec quel rapport à l'art vous avez dû composer? Par exemple, vous, Paul Eisenberg.
Quand j'ai rencontré Antoine de Galbert en 2001, il était très clair. Dès le départ, il savait qu'il ne voulait pas montrer sa collection, alors qu'il est collectionneur et grand amateur d'art, mais il ne voulait pas montrer sa collection.
Il a fini par la montrer l'été dernier.
Ça, c'était à l'occasion de nos 10 ans. C'était vraiment exceptionnel.
S'il l'a montré un petit peu au début, quand même, dans la première exposition.
On a montré une salle de son intérieur, parce qu'on faisait une exposition sur les intérieurs de collectionneurs. Mais non, la spécificité vraiment de la Maison Rouge et du choix d'Antoine, c'était de fonctionner comme un centre d'art privé et d'organiser des expositions temporaires.
François Quintin, vous, aux Galeries Lafayette?
C'est un peu différent puisqu'il s'agit d'une fondation d'entreprise et qui a vraiment vocation à être présent au sein aussi de cet endroit qui rassemble quand même beaucoup de monde. C'est vrai que la fondation d'entreprise Galeries Lafayette a été initiée et souhaitée par Guillaume Houzet, qui par ailleurs est collectionneur, qui est un vrai spécialiste, aussi un expert, hein, qui a un regard très pointu et avec qui on a des discussions sur l'art. Donc effectivement, il y a aussi cette dimension comme ça du regard. Mais la fondation n'a pas vocation à montrer la collection. C'est une fondation qui a vocation à produire, à accompagner des artistes dans la création, dans la production, en couvrant l'art, la mode et le design. Donc c'est quand même assez large.
Manu ?
Ça veut dire que les productions regagnent la connexion ?
Pas forcément. Si elles sont achetées dans le cadre du fonds de dotation, donc qui est la collection, elles sont acquises, mais pas nécessairement. Les œuvres appartiennent aux artistes.
Vincent Honoré ?
Fonctionne un petit peu comme la Fondation Lafayette dans le sens où la collection n'a pas vocation à être montrée à la Fondation et les œuvres produites n'ont pas vocation à rentrer dans la collection. Effectivement, la David Roberts Foundation a été créée par un individu, David Roberts, un collectionneur, mais la programmation et la Fondation sont totalement indépendantes du collectionneur qui ne siège pas au conseil d'administration. Donc j'ai totale indépendance de programmation à la Fondation.
Alors la France a été longtemps frileuse en matière de Fondation. Il semble qu'il y ait comme une inflation ces dernières années. Comment expliquez-vous d'abord cette résistance culturelle à la Fondation et puis finalement la multiplication des Fondations aujourd'hui? Paul Eisenberg.
On vit dans un pays, on a la chance de vivre dans un pays où l'État a jusqu'à peut-être peu joué un rôle important. Des musées existent, il y a des collections magnifiques, il y avait des institutions, que ce soit à Paris ou même en région, où on pouvait voir et on peut voir de l'art. Donc le fait est qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de difficultés budgétaires pour ces institutions. Et
donc les fondations prendraient le relais d'une sorte de démission de l'État dans ce cadre-là?
En tout cas, elles arrivent, oui. Elles arrivent.
Vincent Honoré, quel regard là-dessus?
Je pense qu'on a besoin de plus d'institutions qui montrent de l'art et une polyphonie de propositions, essayer de montrer des choses très différentes. Je pense que la Maison Rouge a fait un travail absolument admirable à Paris, puisque avant vous, en fait, on ne montrait pas ce type d'exposition, ce type d'art, dans une institution de cette envergure.
On a toujours dit qu'on venait Paul en Eisenberg. Complément de l'action de l'État, c'est-à-dire venir en complément, faire des choses qui ne se font pas ailleurs. C'est aussi ça notre rôle.
Michel-Edouard Leclerc.
Je pense qu'il n'y a pas pléthore d'offres. Au contraire, dans le domaine de la culture, c'est très important qu'il y ait cette polyphonie dont vous parliez tout à l'heure. Du point de vue des acteurs économiques, nous sommes souvent sollicités. Moi, toute ma vie, j'ai été sollicité, ou les centres Leclerc, pour parrainer, sponsoriser des manifestations. Mais nous n'avions jamais voix au chapitre, pas plus au festival de la BD d'Angoulême, pas plus pour l'acquisition de tableaux dans les musées dont on accompagnait les collectivités locales, les décisions des collectivités locales. Là, l'intérêt du statut du fonds de dotation, c'est que ça permet à des entrepreneurs aussi de vivre la vie de leur fondation. Et ça, c'est très important pour la motivation. Et ça crée, à un moment où les budgets collectifs sont moindres, ça fait apporter un flux nerveux, financier, au soutien à la culture. Et en même temps, il y a une satisfaction, il y a un motif, une adhésion des acteurs économiques, cette fois-ci, sur la coproduction. Je crois que c'est vraiment fondamental. Quand nous avons proposé d'inaugurer le fonds Landerneau par Gérard Fromanger, avec une rétrospective Gérard Fromanger, on s'est fait plaisir. On aimait Gérard Fromanger, on a voulu montrer Gérard Fromanger, on a rencontré Gérard Fromanger.
Qui était absent, en effet, des institutions depuis quelques années. Manu Farine.
Oui, alors peut-être, parce que là, ça semble assez consensuel, justement, sur la question de l'État et des institutions. C'est pas forcément toujours le cas. Je pense à Antoine de Galbert qui s'est exprimé de façon assez offensive dans le catalogue de la dernière exposition, hein, où il parle de la très faible fréquentation des centres d'art 30 ans après leur création, et où il dit, je le cite, « On ne peut pas éternellement prétexter la complexité d'un art pour justifier l'isolement populaire de ces lieux. Il faut parler d'art et pas d'art contemporain. » Alors peut-être une réaction de François Quintin, parce que vous avez dirigé un FRAC, hein, un Fonds Régional d'Art Contemporain, une galerie, et maintenant une fondation.
J'ai travaillé par ailleurs à une autre fondation qui est la Fondation Cartier. En fait, moi j'aimerais. On a parlé de passage de relais et que les fondations privées prendraient le relais. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et de là où je suis, j'aimerais continuer à militer pour que les lieux et les institutions publiques continuent à faire leur travail. Parce qu'il y a
même dans des endroits où personne ne va, comme le souligne précisément.
Je
ne
sais pas ce que ça veut dire, que des endroits où personne ne va.
Ah bah c'est assez clair. Il y a des endroits et des centres d'art où. Il y a très peu de public.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue parce que, par exemple, j'ai moi été amené à faire des expositions dans les foyers ruraux où, en effet, personne des gens que nous fréquentons vont.
Regarder les chiffres de certains centres d'art, vous le savez très bien. Et d'ailleurs,
les chiffres qui parfois cachent l'essentiel, comme vous le savez. Et en réalité, ça fait partie aussi de ces missions, de ces lieux, que de pouvoir promouvoir et de soutenir l'art à des endroits où précisément l'art est très peu présent, où les gens n'ont pas forcément ces habitudes-là. Donc c'est aussi leur rôle.
Mais je pense que c'est bien qu'il y ait une émulation. Moi, je vois à Landerneau,
dirigez ce lieu.
D'abord, on a travaillé avec les collectivités locales, avec les institutions publiques, ne serait-ce que pour la politique tarifaire, par exemple. On pouvait, avec notre système de mécénat, ne pas faire payer l'entrée. On a estimé que ça cassait aussi les moyens des musées à côté. Donc, il y a une bonne collaboration qui est née. Mais en même temps, ça a été stimulant. Je pense que les conservateurs ou les directeurs d'institutions ont profité de l'arrivée de la Fondation Leclerc à Landerneau, et du coup peut-être qu'à Quimper ils ont été plus écoutés, ou à Brest au Musée des Beaux-Arts. Le FRAC de Rennes était content aussi d'ouvrir en écho, et il y a une saine émulation même des galeries privées à Huelgoat ailleurs, et je pense qu'on crée une dynamique. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait une institution publique forte dégagée de l'emprise marchande. Mais c'est bon l'émulation. C'est bon l'émulation.
Paul Eisenberg, peut-être un mot justement sur la position d'Antoine de Galbert, justement, qui est véritablement dénoncé ces lieux-là. Et j'ai comme l'impression que sa fondation est un moyen de répondre à cela.
Non, mais vous avez raison. Je crois que Antoine, il a vécu en province, à Grenoble, pendant de longues années.
Il avait une galerie à
Grenoble. Il y a un musée, un centre d'art. Il a vécu une situation particulière en tant que galerie qui n'était pas forcément fréquentée par les institutionnels. Il a senti des choses que peut-être nous, en tant que Parisiens... Moi, je suis assez d'accord avec François sur la question de la pluralité qui amène...
Bien entendu.
Je pense qu'on ne peut pas... S'il n'y avait que des fondations en France, on y perdrait. Je pense aussi que l'arrivée de ces structures qui sont chacune... On est vraiment tous très différents. On a des ambitions, des choses à défendre complètement différentes, mais aussi une certaine liberté dans nos programmations, dans nos choix, une liberté importante qu'on revendique très fort. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'arrivée de ces structures.
Alors vient de paraître dans Mediapart une tribune offensive signée par des artistes, des philosophes, des écrivains comme le chorégraphe Jérôme Bell, le poète Pierre Alféri ou l'historien de l'art et anthropologue Georges Didier Berman. Titre, l'art n'est-il qu'un produit de luxe ? Et c'est un long plaidoyer pour une certaine idée de l'art et en ligne de mire, la Fondation Vuitton qui vient de s'ouvrir ces jours-ci, qui transformerait, selon ces personnes, les artistes en hommes sandwich au profit de la marque de luxe. En gros, des artistes pour vendre des sacs. La preuve en serait, par exemple, le défilé pour inaugurer la Fondation. Un commentaire, peut-être ?
Moi, je ne sais pas. Je ne fais pas le même métier qu'eux. Je ne fais pas le même métier. Donc, la Fondation Vuitton, c'est très éloigné de ce que je fais à Londres. Effectivement, il y a des artistes qui sont dans le spectacle et qui correspondent à une certaine volonté de grandes institutions comme celle-ci.
Mais... À nous ?
Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel serait leur métier, d'après vous ?
Non, je veux dire, effectivement, c'est une fondation d'entreprise assez importante, Vuitton, qui va demander à des artistes dont le nom circule énormément, qui vont pouvoir faire des pièces très importantes dans un bâtiment lui-même qui est très... comment dire ? Qui est un bâtiment assez...
spectaculaire.
Spectaculaire, voilà. Et on va faire l'ouverture avec ces artistes-là. Et c'est vrai que c'est très éloigné d'une fondation comme la mienne, qui est assez petite. On va travailler avec des artistes qui sont plutôt émergents. On va travailler dans une recherche davantage de l'émergence, en fait.
Michel-Édouard Leclerc, un commentaire, peut-être ?
Non, moi, je trouve ça fantastique. C'est vrai, il y a un intérêt à agir de la part des collectionneurs privés. Ce n'est pas forcément le même que celui de l'artiste qui a créé, ni celui des institutionnels. And so what ? Moi, j'ai eu l'idée de la Fondation Landerneau parce que j'étais fasciné par ce qu'avait fait Galbert. Et j'avais un concurrent qui s'appelait Ouzé, donc Monoprix Galère Falaise, et ça m'a impressionné. Mais je trouve ça génial que des gens, au lieu d'aller claquer leur pognon aux autres bouts de la planète, je sais pas, d'investir en autre chose, donnent la possibilité, évidemment, à un groupe limité d'artistes, peut-être qui sont dans le flux, et encore, qui peut dire ça ? Moi, je trouve ça formidable. Enfin, depuis les Florentins, et même avant, ça a toujours... Il y a toujours eu cette part...
Mais il y a une différence. C'est pas la même chose. Il y a une différence quand même entre faire du mécénat et faire de la spéculation. Parce que, par exemple, quelqu'un comme Bernard Arnault, c'est quelqu'un aussi qui dirige des maisons de vente. Oui. Donc, qui est à tous les étages, en fait, de ce marché. C'est autre chose que le mécénat, ici.
Oui, Paul Eisenberg. C'est autre chose.
Petit tout le monde est un peu coincé. Tout le monde est un peu gêné, manifestement, sur cette question.
Non, mais bon, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas la... Effectivement, je suis assez d'accord avec Vincent, quoi. On ne fait pas le même métier. Nous, en ce moment, on a une exposition d'art brut. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait cette exposition d'art brut aujourd'hui, au moment où
l'art brut entre dans le marché.
Ouvre la Fondation Louis Vuitton aussi. C'est-à-dire, on décide de présenter autre chose, quelque chose d'alternatif, quelque chose de différent, mais... Un collectionneur qui collectionne depuis 35 ans des œuvres extraordinaires d'artistes qui ont été découverts par Dubuffet en 1945 et qui continue lui-même à faire le tour du monde et à choisir des artistes vivants encore aujourd'hui. Et je pense que je me sens plus à l'aise pour vous parler de ça que pour vous parler du rôle de spéculateur de Bernard Arnault que je ne connais pas.
D'autant plus mal à l'aise qu'on ne l'a pas vu. Hein. Moi, en je ne suis pas encore allé, donc voilà, tu ne veux pas leur tirer des balles dans le genou.
Mais en même temps, c'est...
Ce
que je ne comprendrais pas, c'est de dire, là, il y a de la spéculation. Regardez où on est, qui nous abrite. Elle s'appelle la Fiat, c'est une foire. Ce n'est pas le commun des mortels qui va acheter les œuvres qui sont là. C'est peut-être Bernard Arnault, c'est peut-être Pinault, etc.
Justement, dans la Fiat, qu'est-ce que vous avez
repéré
chacun ?
Ne nous payons pas de morale, quoi. C'est,
c'est en réaction par rapport à cet écrit qui est assez... qui est peut-être polémique, mais qui pose quand même les bonnes questions au moment où...
Mais c'est constant de l'histoire des rapports entre l'art et la marchandise. C'est une constante.
C'est bien ce qui est proposé, en effet, dans cet article. Est-ce que, justement, dans cette FIAC, vous avez chacun repéré une œuvre emblématique de ce que vous pourriez défendre ? Vincent Honoré ?
Moi, je pense à l'installation de Benoît Maire à Cortés Latético. C'est un artiste avec lequel je travaille depuis longtemps. Il a fait une exposition solo à la DRAF, à la Fondation... l'année dernière, et ce qu'il présente là est assez remarquable. D'ailleurs, c'est en partie une installation qui a été présentée à la Fondation Hermès à Bruxelles.
De votre côté, François Quintin ?
Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, parce que, bien sûr, évidemment, c'est la moindre des choses, puisque là, vous savez qu'il y a un secteur Lafayette à la FIAC qui donc soutient des jeunes galeries et qui présente des œuvres. On pourrait en citer beaucoup. J'aime beaucoup la galerie Antoine Lévy qui présente en ce moment cette œuvre de Sean Thornley, qui est très belle.
Paula Eisenberg ? Vous avez repéré quelque chose ?
J'ai vu des belles choses. Hein. J'ai vu des belles choses. J'ai vu des choses plus anciennes qui me touchent énormément. Par exemple, les céramiques de Fontana. J'ai vu aussi des tableaux.
Qui avaient été exposés au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.
Absolument. Qui sont magnifiques. Magnifiques. Et puis les tableaux de Myriam Kahn ou les sculptures de Mark Manders sont des œuvres que j'aime beaucoup.
Et Michel-Édouard Leclerc, qu'est-ce que vous avez repéré ?
Moi, je ne veux rien vous inventer parce que, figurez-vous, je sors de mon travail et je viens vous retrouver ici. J'ai encore rien vu et je vais y passer le week-end.
La FIAC est à vous. Merci à vous. On continue tout de suite.
En direct du Grand Palais, le rendez-vous, la FIAC extérieure.
Plateau Phénomène avec Laurent Grasso qui devrait nous rejoindre. Artiste, un parcours qui commence au début des années 2000. Prix Marcel Duchamp en 2008. Il va s'installer. La question apparaît déjà. Quelle œuvre vous aviez présentée pour ce prix en 2008 pour le prix, pour le prix Marcel Duchamp. Vous vous souvenez ?
Une vidéo qui s'appelait Psychokinesis.
Et qui consistait en quoi ?
On voyait un rocher qui se soulevait lentement dans l'air. Et c'était sur cette idée qu'on puisse faire bouger des objets par la pensée.
Manu.
Alors, vous exposez Soleil double à la galerie Emmanuel Perrotin à Paris, Laurent Grasso. Titre de l'exposition, donc Soleil double, du nom du film que vous projetez dans la seconde salle, hein, si mes souvenirs sont bons.
Exactement.
Et Soleil double comme le motif qui court dans les 8 salles et les 2 étages de l'exposition. Je pense aux 2 disques en laiton brossé, au caisson noir éclairé par un soleil double écrit au néon dans la première salle, ou encore la répétition d'un petit dispositif au ras du sol, 2 cercles de néon côte à côte. Alors, Soleil double, ce titre-là fait écho au mythe de Némésis, hein, cet astre nain et mauvais qui viendrait doubler le soleil. Qu'est-ce que ce mythe-là, cette fiction-là, cette histoire-là prend en charge pour que vous en fassiez comme ça le motif central de cette très grande exposition, Laurent Grasso ?
En réalité, c'était quelque chose qui était déjà présent dans mon travail. Cette idée que les œuvres qui nous sont présentées dans une de mes expositions soient pas uniquement ce qu'elles aient l'air d'être. Alors cette espèce d'ubiquité, de duplicité, de la présence de différentes lectures d'un même objet est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et disons que là, c'était un petit peu plus appuyé volontairement. C'est un principe qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, l'exposition montre beaucoup une iconographie de l'histoire de la catastrophe. Il y a beaucoup de choses
catastrophe
qui reviennent.
Catastrophe naturelle ou étrange.
Mais qui reviennent.
Météorites, éruptions.
Voilà, mais qui reviennent d'un point de vue historique, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas de traiter l'idée de la catastrophe d'une manière trop actuelle, parce que ça engage d'autres choses. Et dans ces peintures, il y a parfois des objets qui sont à la fois magnifiques et à la fois menaçants. Et bon, voilà, c'est quelque chose que je traite assez souvent.
Les peintures auxquelles vous faites référence, Laurent Grasso, sont peintes d'une certaine manière en hommage à la peinture de la Renaissance. Et je sais que vous avez fait appel à d'autres peintres, des peintres particuliers pour les exécuter. Pourquoi fallait-il passer par cela, en fait, par cet hommage ou cette référence à la peinture Renaissance ?
En fait, y a un des sujets de mon travail qui est le temps, le voyage dans le temps. L'idée aussi de construire un certain flottement devant les œuvres, qu'on ne sache pas vraiment d'où elles viennent, comment elles ont été fabriquées. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment la peinture historique, c'est créer ce moment de vacillement où on ne sait pas trop face à quoi on est. Et c'est plutôt l'idée du voyage dans le temps, l'idée de pouvoir ajouter des signes de mon travail présent dans le passé, avec l'aide de ces peintures historiques, plutôt que la peinture elle-même, en fait. Quoi. Donc, mon travail, c'est toujours de créer des blocs de réalité qui sont déjà connus par l'inconscient collectif, comme le cinéma, dans les films qu'on peut voir dans l'exposition, et les autres objets, et d'y insuffler une forme d'étrangeté, en fait.
Juste encore un mot, on va revenir au cinéma avec Manu, mais juste encore un mot sur ces petits tableaux qui font partie d'un projet au long cours qui s'appelle Studies into the Past.
peints par des restaurateurs donc, de tableaux. Qu'est-ce que vous leur avez demandé précisément ?
Ben, en fait, cette série, c'est une série conceptuelle. Donc, un petit peu comme tous les objets que je fabrique. Moi, j'imagine un scénario. Et comme je disais, quand je parle de bloc de réalité, l'idée est vraiment qu'on puisse avoir un moment de confusion et qu'on puisse croire que ces tableaux soient des objets empruntés dans un musée et qu'ils aient vraiment l'air d'objets du XVIe siècle. Donc, ma demande et mon travail, mais que ce soit encore une fois pour ces objets ou pour des autres, c'est qu'on y croit, en fait. Donc, on utilise toutes les techniques qui étaient utilisées à cette époque, de la même manière que pour certaines photos qui sont des documents d'archives dans l'exposition, ou bien pour des sculptures en marbre, des bas-reliefs qui sont aussi dans l'exposition. Il faut qu'on ait l'impression que ça, en gros, ne soit pas fait par moi, quoi, en fait.
Manu.
Laurent Grasso, dans la publication qui accompagne l'exposition, vous associez à chaque salle un petit montage de texte et de référence. Par exemple, dans la salle où est projeté le film Soleil double, qui donne le titre à l'exposition, qui est projeté dans une sorte de caisson, habitacle ajouré en cuivre, vous citez, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Teresa Castro qui a écrit le texte, le Antonioni, Rossi et Rome ville ouverte de Rossellini. Quelle clé ces références au cinéma italien, sachant que ce n'est pas la première fois hein, que vous travaillez sur le cinéma italien, quelle clé est-ce que ça peut donner ici de cette exposition et plus généralement de
Alors,
votre travail hein.
le film dont on parle, Soleil double, c'est un film où on voit progressivement apparaître deux soleils dans un décor d'une architecture totalitaire des années 30
qui est
Eour, un quartier de Rome en fait, qui est un quartier fasciste. Qui avait été créé pour accueillir l'exposition universelle. Donc, cette architecture est elle-même déjà oppressante, et petit à petit, par la présence d'ombres qui sont doublées, par la présence de flous de chaleur, et tout ça sont des effets qui ont été ajoutés après le tournage, on voit deux soleils qui apparaissent. Donc, il y a une espèce de synchronicité comme ça entre ces effets et puis cette architecture et l'histoire de cette architecture. Simplement, les films qui sont cités dans le livret ont certaines scènes qui ont été tournées à Eour, en fait. Donc, c'était un clin d'œil. Souvent, dans mon travail, j'ai filmé des lieux qui avaient déjà été traversés par la fiction. J'ai, par exemple, fait un film qui s'appelait Paracinéma, qui était à l'endroit même, dans les décors de Cinecittà, de certains tournages comme Gangs of New York de Martin Scorsese quoi, en fait. Donc ça m'intéresse de revenir sur des lieux qui sont déjà chargés, qui ont déjà une espèce d'histoire mais qui est une histoire invisible en fait.
Et le cinéma est le meilleur moyen justement pour travailler ces fantômes. Autre référence, je crois que le cinéma quand on ne s'ennuie pas est l'art de laisser revenir les fantômes, et de fantômes et de présence invisible, il en est question dans toute exposition de Laurent Grasso. Quel fantôme laissez-vous revenir dans celle-là?
Dans celle-là, disons que bon, il y a déjà cette histoire de la catastrophe. Ça a commencé par une exposition que j'avais faite à Bâle il y a un an, où moi je suis né dans cette région et j'avais retrouvé des gravures de la destruction de Bâle en 1356. Donc construire des peintures à partir de ces gravures, c'était une manière de faire revivre ce fantôme de l'histoire, en fait, qui était un tremblement de terre. Donc, voilà, l'idée de fantôme, l'idée de capter, même à l'aide de ma caméra, une forme, une certaine réalité parallèle, revient parfois dans les expositions ou bien dans les films que je peux faire. Là, je trouve qu'on a beaucoup cette idée de la catastrophe, mais qui aussi, pour son pendant actuel, l'idée de l'anthropocène, l'idée d'un monde qui, aujourd'hui, est vraiment comme en espèce de suspens. Et il y a un sentiment d'un danger imminent, en fait, quoi, d'une menace qui plane. On ne sait pas où ça va exploser, mais on a l'impression que tout est prêt.
Manu, dernière question.
Arriver. Oui, il y a des présences plus directes dans l'exposition, comme celle de Nostradamus ou de Galilée, par des manuscrits ou même par une sorte de néon étoilé d'après les dessins de Galilée. Galilée qui est aussi un personnage qui vous est assez familier. Qu'est-ce qu'il met à jour pour vous, Laurent Grasso?
Alors, Galilée, en fait, m'intéressait non pas par rapport à l'astronomie elle-même, mais l'enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que L'idée de représenter le monde autour de nous, à l'époque de Galilée, donnait accès à une certaine forme de pouvoir, en fait. Comme aujourd'hui, certains scientifiques auraient, ou certaines recherches donneraient à ceux qui les mènent une forme de pouvoir parce que donne accès à une nouvelle manière de voir le monde, en fait, quoi. Donc, dans d'autres travaux autour, par exemple, de la base ARP, ou bien dans certaines recherches que j'ai pu faire aujourd'hui autour du geoengineering, il y a de nouvelles perspectives qui apparaissent, qui sont comme le pendant actuel du pouvoir que pouvait avoir un Tycho Brahe, qui est un autre personnage qui m'a intéressé, ou un Galilée, et de finalement les enjeux à l'époque que ça pouvait générer.
Est-ce qu'il y a une œuvre, et ce sera la dernière question, une œuvre que vous avez repérée ici à la FIAC?
Oui, alors c'est une œuvre qui s'appelle Affinity de Roman Ondak. C'est à la galerie JB Agency. J'ai noté c'est C15. Et donc c'est
pour
une œuvre.
Pour ceux qui vont visiter, oui.
Voilà. C'est une œuvre qui est comme un cadenas, enfin qui servirait à accrocher un cadenas, et c'est dans un coin. Et c'est comme si cette œuvre retenait les deux murs. C'est dans un des coins du stand. Et bon, voilà, Roman Ondak avait représenté la Slovaquie dans le pavillon à Venise en 2009. Et cette œuvre est comme une extraction d'un objet qui viendrait de sa propre maison, en fait. Et donc, il travaille avec différents matériaux qui viennent soit de sa maison, soit celle d'autres personnes. En fait, là, il y a trois œuvres sur le stand et elles jouent sur cette forme de glissement, de croisement. Voilà.
Rendez-vous FIAC, en direct de la FIAC au Grand Palais.
Vous restez encore avec nous, Laurent Grasso. À vos côtés, un plateau collectif avec Thomas Boutou et François Piron. Vous êtes tous les deux critiques d'art, commissaires d'exposition et tous les deux membres fondateurs de Castillo Corrales, qui est à la fois un collectif curatorial, mais aussi un espace d'exposition indépendant créé en 2007 à Belleville, dirigé par un groupe d'artistes, de critiques, de graphistes et de commissaires d'exposition. C'est à ce collectif, donc, à vous, que la Fondation d'entreprise Ricard a demandé de monter son exposition annuelle du prix Ricard, un prix qui sera dévoilé vendredi soir, on va y revenir. Mais d'abord, un retour en arrière. En 2007, qu'est-ce qu'il s'agissait de défendre avec ce collectif? Thomas Boutou, François Piron? François Piron.
Il s'agissait de se demander ce qu'on faisait à Paris, qui était un endroit où on vivait et où on était relativement peu sollicité par les institutions, donc voilà, très naturellement, les conversations quotidiennes entre des gens qui travaillent dans le même bureau ont donné lieu à l'envie de créer un lieu où, sans économie, on pourrait montrer des choses qui ne sont pas montrées à Paris, on pourrait essayer d'inventer une économie de travail pour des commissaires et pour des artistes.
Manu.
Qu'est-ce que ce nom, Castillo Corrales, disait de votre projet? J'imagine que c'est en référence à la boxe. Je me trompe? Oui? Non?
C'est vrai.
Thomas Boutou.
Effectivement, ça vient d'un c'était un combat de boxe de poids-plume.
2005.
Diego Corrales et Jeffrey Luis Castillo.
Quand on a choisi ce nom, en fait, parce que dès le départ, en fait, on voulait laisser planer un doute ou un trouble sur ce qu'était ce lieu aussi, parce qu'il était comme le disait François, dans une forme d'indéfinition au départ, et il est resté un peu dans cette modalité d'indéfinition, et c'est ça qui nous permet de travailler. Et donc on a utilisé ces deux noms qui associent l'un à l'autre, qui sont, voilà, deux noms de famille à consonance, voilà, enfin hispanophone, mais qui pouvaient laisser suggérer que c'était une nouvelle galerie commerciale, comme souvent c'est les galeries sont, voilà, associent deux noms, deux associés, deux partners dans la création d'un lieu. On voulait d'une certaine manière disparaître. C'est-à-dire qu'on avait fait quand même tous individuellement des choses avant cela, mais on a voulu faire en sorte que la structure existe et prenne une identité au-delà de nos activités respectives. C'était vraiment un projet d'imaginer des modalités de travail collectives et une manière d'imaginer les choses collectivement donc sans forcément faire référence à ce qu'on avait pu faire individuellement, comme François, par exemple, au laboratoire d'Aubervilliers, ou d'autres dans des revues, des maisons d'édition, où certains artistes aussi étaient impliqués dès l'origine du projet.
Alors, la Fondation d'entreprise Ricard vous a demandé de monter son exposition annuelle du prix Ricard, qui sera dévoilée vendredi prochain. 6 très jeunes artistes sont en lice. On va en citer quelques-uns. Marie Angeletti, Camille Blatrix,
Jean-Alain Corr, Audrey... alors, je ne sais pas si on dit Cotin ou on dit Cotin. On dit Cotin. Hendrik Aigré et Mélanie Matranga.
Qu'est-ce que la contrainte du prix pose d'emblée pour penser une exposition ? Parce qu'en fait, l'exposition est collective, extrêmement cohérente. Elle fonctionne vraiment comme une exposition. Et pourtant, elle doit permettre l'élection d'un artiste qui sera primé.
Le paramètre que ce soit un prix, effectivement, implique que la première chose à laquelle on pense, c'est qui sont les artistes avant de trouver ce qui va pouvoir les rassembler, etc. Donc la première chose, c'est déjà aussi de réfléchir avec Colette Barbier, la directrice de la Fondation, à ce que doit être le prix.
Et alors ?
Et on a voulu en manifester clairement que pour nous, c'est un prix d'émergence, pour le distinguer aussi d'autres prix qui existent.
Comme le prix
et qui peuvent,
voilà, Duchamp.
Ça peut être parfois un peu confus sur... le jeunisme, les choses comme ça. Et on a voulu montrer une génération, donc choisir des artistes qui sont assez cohérents dans leur âge. Ils ont tous entre 30 et 32 ans. Assez égaux en termes de notoriété également. Des gens qui n'ont pas fait grand-chose à Paris, par exemple, qui soit ont fait leurs études à l'étranger et sont plus actifs ailleurs, soit ont fait leurs études aussi en province, par exemple, pour montrer aussi que la scène parisienne ne se résume pas à elle seule. J'ai l'impression qu'on en a un peu pâti en termes de presse, par exemple. Le fait que ce soit des artistes qui n'aient pas été déjà identifiés par d'autres avant nous.
Est-ce que vous avez fait un communiqué de presse ?
On a fait un communiqué de presse.
Un contre-communiqué de presse.
Non, ce n'est pas un contre-communiqué de presse. C'est un communiqué de presse qui donne l'ambiance de l'exposition.
Et je crois
mais c'est sûr qu'il ne mâche pas le travail. Il ne donne pas les informations biographiques.
Pour qu'il y ait des copiers collés plus tard dans les journaux, on connaît tout ça.
Typiquement, en fait, quand on a commencé, quand on a créé Castillo Corrales, une des ambitions, c'était aussi de pouvoir développer un ton et un vocabulaire et un style d'écriture et une manière de parler des expositions, de les annoncer, de les accompagner de manière discursive, qui était un peu différent des conventions en usage et qui ont tendance à se naturaliser dans le monde de l'art. C'est-à-dire que souvent, on considère quand même le langage, le discours, un peu comme l'assistance technique, en gros, le téléphone vert d'une exposition, comme si on avait besoin à un moment donné... d'assurer aux spectateurs la possibilité de s'appuyer sur des explicitations à travers le discours. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a toujours essayé de proposer une alternative en termes d'écriture. Et je crois qu'en Colette Barbier, la directrice de la Fondation Ricard, nous invite pour faire cette exposition. Et c'est pertinemment que... c'est ça qu'elle a aussi envie de mettre en avant, à mon avis, dans le prix. Donc c'est pas un contre-communiqué, il est tout à fait dans la lignée de ce qu'on avait pu écrire précédemment. Et c'est une manière aussi de dire que, enfin, cette idée que le langage serait un peu, voilà, comme ça, l'assistance technique, c'est une manière de dire qu'il n'y aurait pas d'intelligibilité intrinsèque des œuvres, qu'il ne peut pas y avoir une compréhension émotionnelle, affective des œuvres, qu'on ait toujours besoin de passer par le langage, par des formes d'explicitation verbal pour essayer de comprendre les œuvres. Donc c'est vraiment une question de respect aussi du spectateur, je crois, qui est en jeu dans ce choix d'écriture et de style.
Laurent Grasso, vous comprenez justement ce positionnement ?
Question de l'assistance technique.
L'enjeu du communiqué, oui, c'est, y a une esthétique du communiqué. Aujourd'hui, on est dans un besoin... voilà, qui parfois peut détourner ce qui, moi, me plaît dans une œuvre, ou bien dans un film, une quelconque forme, c'est de pouvoir avoir la liberté d'arriver en face sans avoir été pollué. Et en même temps, il y a une très forte demande aujourd'hui de contenu, en fait, comme on dit. Quoi, en fait. Mais le plus beau moment, c'est moi, quand j'entends trop parlé de quelque chose, j'ai plus envie de le voir en fait. Quoi.
Dernière question à vous deux. Qu'est-ce que vous avez repéré ici à la FIAC ou à Officiel si vous y êtes allé?
Thomas Boutou.
Très vite.
Très vite. Alors le film de d'Araltis et Jos de Greuter à la galerie Bechinschweizer, c'est un film qui s'appelle The Ape of Bloemfontein.
Ça consiste en quoi?
C'est un film justement où il y a une écriture, il y a un texte qui court à certains moments du film, qui est très beau, qui est très mordant, qui est assez drôle aussi, quelque chose à laquelle moi je suis assez sensible. Et donc ça raconte, c'est un film sur une espèce de mouvement contraire entre une dynamique d'évolution et un certain état de statique des choses. Donc il y a le langage qui évolue, il y a des sculptures, il y a des effets de... Je crois que c'est un des premiers films sur lequel ils utilisent des effets digitaux aussi, ces deux artistes flamands. Et il y a la langue elle-même, en fait, ça raconte l'histoire de l'intrusion, la création de l'afrikaans, en fait, de la langue sud-africaine, et l'influence donc, du flamand, et la manière dont justement le flamand résiste et évolue doucement, comme ça, pour définir avec d'autres langues l'afrikaans.
François Piron,
je crois avoir compris en tout cas de l'œuvre.
Sans avoir de discours préétabli. François Piron, si vous en avez une, il faut qu'elle soit extrêmement rapide, sinon il va falloir que vous la gardiez pour vous.
Beaucoup d'œuvres m'ont plu, mais je crois que celle que je préfère, c'est Florence Bonnefou, qui est la directrice d'Art de Paris, et qui porte sur elle aujourd'hui une œuvre magnifique de Patrice Gaillard et Claude. Il faut aller la voir sur son stand, ce sera juste aujourd'hui, je crois.
Et on va tenter de la photographier et de la mettre sur le site de l'émission.
Il faut qu'il y ait une institution publique forte, dégagée de l'emprise marchande. Mais c'est bon, l'émulation.
Donc, ma demande et mon travail, mais que ce soit encore une fois pour ces objets ou pour les autres, c'est qu'on y croit.
Merci à nos invités, Paula Eisenberg, Vincent Honoré, François Quintin, Michel-Édouard Leclerc, Laurent Grasso, François Piron et Thomas Boutou. Toutes les actualités de nos invités seront sur le site de l'émission dès demain. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais justement, demain.
Je suis photographe. Je suis décidé à remonter la vie de mon grand-père jusqu'à la honte originelle, jusqu'au mystère de sa naissance.
Demain, on parlera de la France avec Florence Aubenas, avec à ses côtés Stéphane Rago. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture en ZOSFES, à la technique Yvan Charbit, Stéphane Poitvin, Olivier Leroux, chargé de production Pascal Morel, Fabienne Bello et à la réalisation Thomas Beau.
On remercie bien entendu ici toute l'équipe de la FIAC qui nous a accueillis et qui nous a aidé à monter cette émission. Il est 19h55.